Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Pierre Norris, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Il y a 2 semaines, il évoquait le Brexit, c'est-à-dire le départ définitif du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette fois, il explore la question de la définition de l'Europe, non seulement politique, mais aussi spirituelle, philosophique et sociale. Selon lui, l'idée européenne serait inséparable du christianisme. Mais tout d'abord, Édouard Chatoff nous offre sa chronique Foi et culture. Il nous parle de la mémoire comme lieu de présence, de pardon et de réconciliation. Une réflexion utile dans une société québécoise tiraillée entre ouverture, oubli et réaffirmation du passé. Édouard, bonjour.
Bonjour.
J'ai l'impression qu'on va être plus profond que d'habitude aujourd'hui.
Je ne sais pas du tout ce qu'on va être plus profond que d'habitude. En tout cas, la question de mémoire et de présence, ce sont les questions délicates, mais en même temps les questions qui occupent toute notre vie. Et surtout dans la société québécoise, on parle souvent du recours au passé. De plus en plus, on parle de questions de patrimoine culturel et religieux, qui est lié aussi à cette question de mémoire et de la présence dans aujourd'hui. On parle aussi des guérisons de mémoire, si c'est nécessaire. Et je dois dire, c'est vrai que je pense, il y a les vraies blessures de la mémoire qui un peu définissent notre présent et l'avenir.
Pardonnez-moi, est-ce qu'il faut... Tout le monde sait ce que c'est que la mémoire, mais pas grand monde sait la définir. Est-ce qu'il y a une définition de la mémoire ou pas?
Je pense que toutes les définitions qu'on peut donner, il reste un peu, je dirais, partiel. C'est une capacité de nous souvenir de notre passé et de s'y tirer du passé le temps présent. Et c'est là que vient la définition de mémoire. C'est que la mémoire est toujours sélective. Au-delà de toutes nos meilleures intentions, elle est toujours sélective, on retient un certain nombre de choses et on les fait ressortir, on oublie certain nombre de choses et on veut les faire enterrer, voire de ne pas nous souvenir, ou de temps en temps on se souvient de ce qu'on ne veut pas se souvenir et on oublie ce qu'on aimerait faire ressortir sur la surface. Mais il y a aussi un autre aspect de la mémoire, c'est que la mémoire, le rapport au temps, et le temps est toujours aussi perçu d'une manière très différente et diversifiée à cause de notre milieu, à cause de notre formation, à cause de notre éducation et plein d'autres choses. Et pourtant, il y a quand même les souvenirs qui ont rapport un peu à l'objectivité des faits. Et de ce point de vue, si nous parlons aujourd'hui de la mémoire, c'est quand même intéressant que la devise de la province du Québec, c'est précisément « je me souviens », donc le rapport à la mémoire.
Attendez une seconde, il y a souvenir et mémoire. On n'a pas dit « je me remémore », on me dit « je me souviens ». Faites-vous une différence entre les deux ou pas?
Je pense qu'il y a une différence, mais la mémoire est constituée de toutes sortes de souvenirs, mais aussi avec la relecture de ces souvenirs.
Alors justement, vous parlez de mémoire sélective, Édouard Chatoff. Je me souviens de certaines choses, j'ai oublié d'autres, c'est peut-être pénible, peut-être simplement oublié, ou en moi j'ai une psyché qui regarde le bleu et pas le jaune, enfin que sais-je. Ça c'est la mémoire sélective, mais il y a aussi, mettons vous et moi on fait une promenade, vous et moi on fait des chroniques depuis des années, vous et moi on est témoins d'un même phénomène. Et pourtant, je vous parie que votre mémoire et ma mémoire ne sera pas remplie des mêmes souvenirs liés à ce phénomène. Déjà, et là, je pointe, déjà, au-delà de ce que je vous raconte, la mémoire collective et notamment du peuple québécois. Je veux dire, déjà, vous et moi, on a déjà 2 mémoires différentes, même si c'est le phénomène est le même.
Oui, et c'est vrai ce que vous dites, avec une petite précision que j'apporterai. C'est que nous avons le rapport aux certains souvenirs de l'histoire québécoise. Mais vous et moi, nous sommes invités à accéder à cette mémoire québécoise de deux côtés pour nous rappeler peut-être au plus juste ce que est arrivé et par quoi notre présent est défini. Je vais donner un exemple. Toute mémoire, si différente soit-elle, elle se base autour des événements fondateurs. Vous savez, dans votre mémoire et dans la mienne, si on parle de vous, ce sera la date de votre naissance, qu'on aime ou qu'on l'aime pas, qu'on la souvienne différemment ou non, mais il y a comme le fait un peu objectif dans la mémoire collective que tel jour, tel mois et telle année, chacun ou chacune d'entre nous est né. Ça s'applique aussi à moi. Dans l'histoire québécoise, il y a aussi les événements fondateurs. Donc, il y a les pères fondateurs de cette histoire. Il y a aussi, et peut-être je devrais même les mentionner avant, il y a les mères fondatrices de cette histoire, parce que nous connaissons quand même assez bien que presque les premières personnes qui ont forgé l'histoire spirituelle, humanitaire, éducative, c'était les femmes. Et donc, pour d'abord s'approcher de la mémoire, il faut se remémorer les faits fondateurs et s'approcher de ces faits fondateurs avec, je ne dirais pas d'abord la partialité, mais d'abord avec une reconnaissance et la relecture. Ce qui veut bien dire, les lectures vont être différentes. Quelqu'un lira cela très positivement, d'autres lira cela un peu d'une manière culpabilisante, d'autres lira ça avec une manière blessée, mais tout de même, il y a certains faits fondateurs qui
mais alors, écoutez, je suis autochtone, pardonnez-moi Edouard, mais je suis autochtone, mettons, déjà. Évidemment, et comme vous, je serais d'accord à dire telle personne a existé, il s'est passé ci, tel événement est considéré fondateur par, mettons, les Québécois de souche. Je suis autochtone et pour moi, l'histoire est beaucoup plus profonde que ça et ce moment fondateur n'est qu'un moment, si vous voulez, un petit peu plus secondaire. On arrive déjà à une préférence liée à une appartenance culturelle, à d'autres discours. Vous semblez réduire une mémoire à un discours, alors que le discours est l'objet de choix différents aussi.
Non, je ne songe pas à réduire la mémoire en discours, sauf que si, et je pense que c'est extrêmement important d'entendre la mémoire des peuples autochtones, donc il faut rentrer cette lecture et cette compréhension des événements de la part des personnes autochtones. Mmh. Or, ce qui est important dans la mémoire, c'est la mémoire collective écrite, la mémoire écrite orale, collective. Mm-hmm. Donc, il faut faire conjuguer et faire un peu, disons, comme traverser les uns les autres par le processus très complexe tous ces souvenirs. Donc, et si nous parlons un peu de la Provence du Québec, il me semble qu'il y a une certaine difficulté de l'approche de cette mémoire. Mm-hmm. Parce que on a peur de s'approcher et faire cette transversalité, où on évite tout simplement toucher cela parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va nous donner, parce que c'est comme la boîte de Pandore. Donc si on ouvre la boîte de Pandore, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir, quel malheur va nous encore arriver. Mm-hmm. Et donc on préfère de garder une jolie boîte sur laquelle il est écrit mémoire dans notre salon, et quand on dit c'est quoi là-dedans, on me dit ah, ça c'est notre patrimoine.
Et on ne voudra pas l'ouvrir.
On n'ouvre pas.
Mm-hmm. Pour quelle raison ?
Il y a peut-être des malheurs ou des richesses, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et ce qui est aussi un peu, je dirais, difficile pour moi, venant un peu de l'extérieur, de regarder, au-delà de tout le, disons, d'émotions qu'on peut éprouver, que quand on parle de la mémoire, en tout cas, il me semble, dans la Provence du Québec, et c'est une mémoire qui n'est pas commencée avec la Révolution tranquille, même si cet événement c'est important. La mémoire québécoise, elle est beaucoup plus longue. que cela, quand vous avez évité même les autochtones, précisément la présence des peuples autochtones, nous fait signe, il nous interpelle, que nous ne pouvons pas réduire la mémoire à une courte période. Elle est beaucoup plus grande que nous pouvons même envisager, ou comme vous l'avez souligné, ce que nous pouvons mettre dans les questions de discours.
Le seul problème aussi, Édouard, c'est qu'en 1759, il y a eu un événement aux plaines d'Abraham, et il y a déjà deux noms pour décrire cet événement, c'est la conquête ou la défaite. Rien que ça montre un partage des eaux, une bifurcation de discours, et je rajoute aussi que la mémoire au Québec est problématique, vient du fait aussi qu'on est dans un pays où la mémoire est encore plus problématique. C'est-à-dire qu'on devient un symptôme d'un problème d'autrui.
Je pense ce que vous dites, ça souligne un autre disons défi, c'est oui. Que pour s'approcher de la mémoire d'une manière, je ne dirais pas neutre, parce qu'on n'est jamais neutre vis-à-vis
pas,
de l'histoire et de la mémoire, mais un peu disons globale et édifiante, il faut comme un peu se mettre à l'extérieur de nos préoccupations personnelles. Et
oui.
Donc même cet événement que vous avez décrit, la conquête ou la défaite, il faut peut-être le relire avec des yeux nouveaux. Ça ne veut pas dire évacuer des blessures ou des souffrances, mais regarder qu'est-ce que cet événement qui est arrivé, donc on ne peut pas l'enlever, qu'est-ce qu'il a apporté au point de vue de l'histoire et de l'identité nationale qui servait aux croissances, cette identité, parce que si le peuple québécois est encore là et est toujours là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a aussi se développé au-delà de toutes les difficultés de cet événement.
Oui.
Qu'est-ce que aussi ça a été vécu comme la très grande souffrance, comme quelque chose qui peut être freiné ou même stagné certains côtés. Et donc, il faut faire toute sa relecture pour dire qu'est-ce qu'avec tous ces éléments, on fait aujourd'hui, parce que le rapport à la mémoire, ce n'est pas juste nous réfugier dans le passé et de dire cet événement est responsable de tout. Le travail de la mémoire consiste précisément en regardant, si je me permets une métaphore, dans le miroir de mémoire. Mais c'est aujourd'hui qu'on se regarde. Et donc c'est aujourd'hui qu'on le fait pour aller plus loin, pour sortir et aller à la rue et vivre notre vie, parce que personne ne reste devant le miroir de la mémoire tout le temps.
Édouard, ce que vous dites me semble juste. Ça débouche sur un autre problème plus fondamental, c'est le rapport à la parole. Évidemment, il ne faut pas qu'on soit englouti dans notre passé, englouti dans cette mémoire, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, peu importe. Il faut qu'on puisse, par la parole, établir une distance, un recul entre ce qui s'est passé et qui m'a constitué et ce que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'au Québec, vous sentez que on a un rapport à la parole problématique? Est-ce que on colle trop aux événements?
Je ne sais pas répondre à votre question formulée comme telle.
La réponse est déjà implicite dans ma question, mais j'attends vos propos.
C'est pour cela que je ne sais pas répondre à votre question, parce que je pense que les Québécois, comme tous les êtres humains, ont un rapport difficile à la parole.
Oui.
Parce que l'être humain, par la nature, a un rapport difficile à la parole. Parce que ça demande un courage intérieur et aussi certain nombre de changements qui après. Parce que pour parler, vous savez, pour apprendre à parler de différentes langues, il faut apprendre à poser sa bouche d'une certaine manière. Donc l'exercice de la parole, ce n'est pas juste l'exercice mental, c'est un exercice physique.
Pardonnez-moi, mais là, le mot et la parole, c'est la même chose pour vous. Vous parlez de mots d'une langue. Moi, je parle d'une parole. C'est beaucoup plus profond.
Pour même prononcer une parole, pour articuler les paroles, il faut des mots et tous les deux sont liés. Hein. Et donc, mais je vais quand même essayer de réfléchir sur votre question. Et je pense que la difficulté de Québécois, Et c'est là que je pense peut-être il y a des pas à faire plus que ça se fait actuellement, c'est de, en urgence, faire toutes sortes de propositions de relecture, d'approfondissement de l'histoire. Parce que la mémoire se travaille et la parole se travaille par l'histoire. Donc, oui. Il faut relire cette histoire dans tous les sens, non pas pour établir politiquement correct ou politiquement acceptable, mais pour que tous les parties de cette histoire, tous les agents de cette histoire puissent s'exprimer et dire en se basant sur les documents historiques, sur les archives, sur la mémoire orale qui existe dans certains parties, de mettre en commun cette relecture historique, la relecture mémoire. Et alors là, la parole va surgir.
Mais pourtant, on dit toujours que c'est le gagnant de l'histoire qui écrit l'histoire. Que dites-vous de ça? La mémoire, quelquefois, peut être étouffée parce que le gagnant a intérêt à cacher ci. Vous parlez d'un effort de vérité où finalement il n'y a plus de gagnant ni de perdant.
En fait, c'est vrai qu'on dit très souvent le gagnant écrit l'histoire, c'est-à-dire et tout le reste disparaît. C'est vrai d'une certaine manière, mais il y a un petit ou un gros mais dans tout cela. La vie du monde est faite et, de telle manière que ce qui est vrai ne disparaît jamais. Et donc, même si gagnant, s'il a écrit la vérité, tant mieux. Mais s'il a essayé de pervertir la vérité, c'est juste une question du temps pour que la vérité surgisse à nouveau, parce que le mensonge ne tient pas. Et le mensonge, s'il était même le plus habile, il y a un moment, il fond, il est cassé, il y a d'autres choses qui surgissent.
Mais Edouard, pardonnez-moi, mais combien de vérités cachées sont mortes, étouffées ou carrément atrophiées, faute d'irrigation, faute de lumière. Je veux dire, vous semblez. Je ne parle pas de la vérité divine, c'est autre chose, mais des vérités historiques, il y en a. L'histoire humaine est jonchée, est un cimetière de vérités qui n'ont pas éclos, qui n'ont pas été chantées.
Oui, c'est vrai, sauf que quand les vérités étaient tuées, vous savez, c'est juste la question du temps, c'est comme les fantômes qu'ils nous reviennent. Et c'est bien là le problème. Donc le travail de mémoire, c'est le travail de ne pas enterrer les vérités ou de ne pas justifier les mensonges, c'est vraiment faire advenir ce qui nous fait vivre. Et donc, c'est seulement là-bas que les fantômes peuvent partir, les vivants peuvent bien vivre et il n'y a pas des morts marchands, comme on dit aujourd'hui.
Et on les laisse enterrer les morts aussi. Edouard, ce que vous dites me fait penser à la phrase qui termine la prière eucharistique à la messe. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai guéri. » On peut appliquer cette phrase-là, c'est le centurion qui dit ça à Jésus, à Césarée. Il s'agit de dire une parole pour guérir. Guérir, ça ne veut pas dire oublier, mais c'est pardonner, c'est aller au-delà de la blessure grâce à la parole. Est-ce que ce serait une façon de pouvoir examiner la mémoire du Québec ou de tout autre peuple ?
Tout à fait, ça peut, sauf que dans la phrase que vous dites, il y a une petite nuance. On dit « Seigneur, dis seulement une parole », c'est-à-dire on s'adresse à celui qui dépasse infiniment l'être humain tout en manifestant la plénitude de l'humanité. C'est-à-dire c'est une personne qui ne cherche pas son intérêt propre, c'est une personne qui cherche le bien commun. Et donc, parce que Dieu cherche toujours le bien commun Jésus révélé, y compris dans la prière eucharistique, il cherche toujours le bien commun. Donc c'est là qu'il y a le changement de perspective, parce que là on est capable de regarder la totalité, c'est-à-dire pas pour être totalisant, mais l'ensemble des réalités pour discerner cela, et pas juste pour me battre pour mon option historique ou idéologique qui crée les perdants et les gagnants. Et le défi de la relecture, il est là. Or, aujourd'hui, pas seulement à Québec, mais dans d'autres pays, très souvent, les relectures de l'histoire et donc les relectures de mémoire sont liées aux causes idéologiques, idéologiques qui veulent prouver une ou l'autre chose et qui veulent gagner ou vaincre ou perdre d'autres personnes. Et c'est pour cela que ça reste toujours partiel. Et c'est pour cela que ça nous laisse toujours insatisfaits et frustrés.
Édouard Chatoff, il nous reste une petite minute, mais une grande question, comme je fais toujours à la toute fin. Pour une mémoire, pour un dépôt de la foi, il faut quand même un clergé qui gère cela. L'Église catholique et ce clergé qui transmet une parole. Dans le cadre de la mémoire d'un peuple, est-ce que vous pensez qu'il faut un clergé qui garde le dépôt de la mémoire ou c'est un bien ouvert à tout le monde? Il reste 45 secondes.
Oui, je pense que c'est un bien qui est offert à tout le monde. Mais je pense aussi que c'est un défi énorme pour tous les historiens du Québec qui doivent travailler cela, plus âgés ou plus jeunes, c'est pour cela, c'est peut-être une invitation aussi aux jeunes de s'intéresser à l'histoire nationale et le travailler dans tous les sens, en français, en anglais, que sais-je, au Québec.
Oh, déjà, il y a un autre sujet qui émerge.
Tout à fait, un autre sujet qui émerge, oui. Mais
10 secondes.
Et voilà, et c'est là qu'il faut que c'est aux ces personnes qui doivent aussi veiller sur le bien commun que cet appel est lancé.
Édouard, merci infiniment. Vous êtes le directeur du Montmartre de Québec, montmartre.ca, je pense, votre adresse.
Oui, c'est lemontmartre.ca, Centre culturel.
Le Montmartre, parfait. Merci infiniment. À dans 2 semaines, Édouard.
Oh,
à venir sur les ondes de Radio-VM, les racines chrétiennes de l'Europe. On vous revient après la pause.